podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'AFDS.tv. Légion est une série américaine d'une saison de 8 épisodes diffusée depuis février 2017 sur FX aux États-Unis. La série a été diffusée en Belgique sur B-Série et en France sur OCS Max. Créée par Noah Hawley, aussi responsable de la très bonne série Fargo, la série est intimement liée à l'univers et la mythologie des X-Men. La série a d'ailleurs été adoubée par le papa des mutants au cinéma, Bryan Singer. Légion se présente comme un récit de science-fiction teinté de drame et de thriller psychologique. Côté casting, on y retrouve l'excellent Dan Stevens, dont les yeux bleus avaient fait fondre Emma Watson et nous avec, dans l'adaptation cinématographique de La Belle et la Bête, signée par Disney. On retrouve à ses côtés l'actrice Rachel Keller, que l'on avait pu apercevoir aussi dans la série Fargo. Forte d'un excellent accueil critique, la série se voit déjà propulsée au rang de série culte par certains. Il est vrai que son parti pris a de quoi dérouter les aficionados des super-héros, ce qui n'est pas pour nous déplaire, tant le marketing acharné de DC Comics et de Marvel a tendance aujourd'hui à desservir ce type de fiction. En tout cas, la saison 2 est annoncée pour 2018 et devrait nous réserver quelques beaux moments de télévision. Pour nous en parler aujourd'hui, Nathanaël Picasse, bonjour.
Bonjour.
Pour l'accompagner, Sophie Sourdiocourt, bonjour.
Bonjour.
Alors Nat, Légion est-elle déjà une série culte ?
Non. Alors je voudrais quand même qu'on rappelle un petit peu cette définition de série culte, parce que maintenant, dès qu'il y a une série qui sort et qui rencontre un petit peu de succès, paf, série culte. Alors, rappelons, une série populaire n'est pas nécessairement une série culte. On peut avoir des séries qui rencontrent un grand succès au moment de leur diffusion, grâce notamment au marketing, hein, mais qui seront peut-être sans doute oubliées ou regardées avec un certain dédain dans plusieurs années, quand on les analysera à froid, quand on regardera leurs qualités intrinsèques.
Tu penses à Desperate Housewives, par exemple ?
Oui, Prison Break, Grey's Anatomy, voilà, ce sont des séries qui ont...
Non, mais Prison Break n'a jamais été culte, hein. Elle a été craignose dès son 13e épisode.
Oui, voilà, mais elle a connu un grand succès. Mais maintenant, quand on a annoncé le retour de Prison Break il n'y a pas très longtemps...
Le retour de la série culte.
Oui, non, elle n'est pas culte, il faut arrêter un moment, quoi. Donc, une série culte, c'est une série qui se crée une communauté de fans purs et durs, un noyau qui va vénérer l'objet télévisuel en l'analysant en profondeur, la décortiquant, en échangeant sur les forums. Ils vont débattre de leur épisode préféré, de la meilleure séquence, des dialogues, au point d'en faire un objet quasiment religieux. Et c'est une série dont la ferveur ne se tarira pas au fil des années. Donc, le temps nous dira si effectivement Légion est une série culte, mais c'est pas au moment de sa diffusion qu'on peut le dire. Peut-être que dans 10 ans, effectivement, on pourra le dire. Il est vrai, par contre, que Légion a des arguments pour devenir à terme une série culte. Ça, c'est vrai.
Merci pour cette mise au point nécessaire et indispensable.
Oui, parce que j'aimerais bien qu'on ait tous ces spécialistes des séries télé qui nous disent « Ah, la série culte qu'il faut absolument regarder, qui vient de sortir. » Non. Enfin bon, replaçons aussi le contexte de la sortie de cette série qui est pas évidente, parce qu'elle sort quand même en plein milieu d'une indigestion totale de super-héros. Bah, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour le moment, je pense qu'ils ont pris le pouvoir, à la fois au cinéma et à la télé, à toute la clique de Marvel. Ils ont pris d'assaut le box-office américain et mondial, les super-héros sont partout, la planche à billets verts tourne à plein régime, les records s'enchaînent, on a du Hulk, du Spider-Man, du Iron Man, du Ant-Man, du Captain America, des Avengers, du Wonder Woman, c'est impossible de passer à côté d'eux.
Je réclame le retour de Black Canary.
Ah, ce bon craignos. Enfin bref, il faut dire que les producteurs de Marvel et de DC Comics sont bien décidés à exploiter le filon au maximum, puisque leur idée est simple, hein, en fait, c'est de développer l'univers des super-héros sur tous les médias, avec des histoires parallèles, des spin-offs, afin de créer une sorte d'immense toile d'araignée qui raconte les histoires de nos héros préférés. On a aussi l'exemple avec Agents of S.H.I.E.L.D., qui est pourtant créé par Joss Whedon, qui nous permettait de suivre les aventures des Avengers, ou du moins des personnages secondaires des Avengers, sur le petit écran. En attendant le prochain film, une façon d'assurer une certaine continuité dans cet univers. Alors pour ceux qui aiment les héros masqués, on a aussi l'embarras du choix, hein. Flash, on a déjà plus de 4 saisons, Arrow, Supergirl, parle, Daredevil, Gotham, enfin Jessica Jones et les Defenders, enfin on a tout ce qu'il faut. Contrairement à la plupart quand même des super-héros dont je viens de parler, les X-Men par contre ont toujours fait l'objet d'un traitement un petit peu à part, ont assez fait peu d'incursions quelque part dans le monde des séries télé. On a eu un peu des avatars un peu des X-Men, je pense notamment au 4400 quelque part qui avait ce côté-là aussi. Les X-Men, qu'est-ce que c'est déjà? Ils viennent pas d'une autre planète, ils viennent pas d'un autre monde. Ils ont en général pas obtenu leur pouvoir suite à un accident nucléaire, une expérience scientifique qui a mal tourné. Le plus du temps, ce sont des êtres humains normaux qui ont simplement évolué, leur ADN, leurs gènes ont évolué en développant des aptitudes particulières qui sont propres à chaque personne. Contrairement aux autres héros, ils ne se déguisent pas pour prendre une autre identité afin d'utiliser leur pouvoir. Au contraire, ils se cachent plutôt de la société en se faisant passer pour des êtres normaux. Finalement, c'est l'être humain qui est leur déguisement et c'est pas ce qu'ils sont réellement. Chez les X-Men, on raconte les aventures d'êtres humains qui ont évolué génétiquement et qui développent de super pouvoirs tous différents. Et par peur d'être rejetés par la société, ils cachent leur pouvoir. Soit ils vivent dans des communautés relativement closes, certaines étant pacifiques, d'autres beaucoup moins. Et c'est personnellement une thématique que je trouve un peu plus intéressante aussi, puisque ça nous permet de traiter des personnages dans le réel et de faire des métaphores sur leur pouvoir et sur le traitement de la différence. Et je vous propose de commencer tout de suite par un extrait. On va plonger dans Légion et c'est la visite de Amy qui est la sœur du personnage principal. C'est une de ses premières visites à l'hôpital psychiatrique et j'en parlerai un petit peu plus après.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear David, happy birthday to you.
Ma'am?
What?
There's some... You can't give me that.
Oh. Yes. So, do they let you throw a little party here, or...?
Yeah, they clear out the furniture, we get a DJ.
Really?
No. We do get better drugs, though.
Really?
No. It's just... Thursday. My 260th Thursday as a passenger on the cruise ship Mental Health. On the plus side, I have mastered the art of eating with a spoon, so.
You're getting better, though. The voices. You're not seeing things that aren't there. Oh, that's... What does your doctor say?
If I tell them I'm sane, they think I'm crazy. And if I say, you know what? You're right, I am crazy, then they up my dosage. So...
Oh, how about I talk to them? I'll tell them... You seem better to me. How is it?
Time for your meds.
Something new needs to happen soon.
On peut le voir, le traitement du sujet est totalement différent de ce dont on a l'habitude.
On est plutôt dans une introspection. On va dire avec Légion, puisqu'en fait l'histoire nous raconte David Haller sous un angle très intéressant puisqu'il c'est celui de la maladie mentale et de la schizophrénie. Alors, on pouvait l'entendre dans l'extrait, donc David Haller est enfermé dans un hôpital psychiatrique puisqu'on lui a diagnostiqué une maladie mentale quand il était enfant et c'est un personnage qui a multiplié les allers-retours en hôpital psychiatrique pendant toute sa vie, qui a dû prendre beaucoup de médicaments et sa sœur vient donc lui rendre visite et sa sœur est la seule un peu référent qu'il a et qu'il apprécie d'ailleurs. L'histoire commence assez rapidement puisqu'en fait il y a l'arrivée d'une nouvelle patiente dont il tombe fou amoureux et qui semble aussi très particulière puisqu'en fait elle ne veut pas être touchée. On apprendra très vite pourquoi elle ne veut pas être touchée puisqu'en fait elle est mutante elle aussi et dès qu'elle est touchée en fait son esprit est projeté dans le corps de la personne qui l'a touchée et inversement aussi d'ailleurs, ce qui fait que ben évidemment ça devient un peu compliqué pour créer des relations. C'est une métaphore qui avait déjà été utilisée dans la série Pushing Daisies, je sais pas si vous vous souvenez avec ce personnage qui ne pouvait pas toucher la personne qu'il aimait sous peine de la tuer. Ici, ben voilà, ils s'aiment mais ils ne pourront jamais se toucher. Donc il y a ce personnage qui arrive et qui va provoquer un changement chez le personnage principal, David Haller. Il va commencer à comprendre qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas vraiment des manifestations de son esprit, mais qu'il y a effectivement des choses qui se passent à côté. Et en plus, il y a apparemment des services gouvernementaux, enfin une équipe de personnes qui finissent par le traquer. Donc il se pose des questions. Est-ce qu'en réalité, les symptômes qu'il a sont un vrai problème mental, ou est-ce que c'est plutôt la manifestation d'un pouvoir surnaturel qu'il aurait des difficultés à contrôler? Toute la série pose cette question et va entretenir cette question très, 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 très régulièrement.
Donc on est clairement ici devant un récit finalement initiatique.
Oui, et c'est un récit à miroir, donc avec beaucoup de choses trappes, beaucoup de mise en abîme, beaucoup de flashbacks, de retours en arrière. En fait, c'est assez compliqué de vous raconter le reste de l'histoire, à part ce pitch de départ de se dire on a un personnage qui est dans un hôpital psychiatrique et il lui arrive des choses. Si je commence en fait à trop en raconter, ben je vous spoil aussi pas mal d'éléments, alors que je pense que c'est quand même intéressant de pas se faire spoiler. Mais tout au plus, on peut savoir que le personnage va sortir de l'hôpital psychiatrique. Il va en fait être approché par un groupe de mutants qui se présentent comme des bons mutants, qui lui disent voilà, on va t'aider en fait à apprivoiser tes pouvoirs. Tout ce que tu as vécu en fait n'était que la manifestation de tes pouvoirs. Donc on va plonger dans ton subconscient, on va t'aider à apprivoiser tout ça, et comme ça tu vas pouvoir vivre heureux et après nous être utile aussi, évidemment. Et c'est un groupe de mutants qui est dirigé par Mélanie, une femme qui a aussi quelques lourds secrets derrière elle. La plupart des personnages d'ailleurs ont des lourds secrets. C'est assez compliqué. En plus, les personnes qui traquent David Haller de l'autre côté, est-ce qu'ils lui veulent réellement du mal? Qui est le bon? Qui est le méchant? Toutes des questions qu'on se pose tout le temps dans la série. Et en fait, à chaque fois qu'on pense avoir trouvé la réponse ou qu'on part dans une direction, et bien quelques épisodes plus tard, pouf, non, on vous dit que c'était pas tout à fait ça. Le seul personnage avec lequel David arrive à tisser une relation, c'est le personnage de Sydney, donc c'est la jeune fille dont il tombe amoureux. Si en plus on ajoute le fait que la série multiplie les flashbacks, les plans oniriques, cauchemardesques, c'est pas facile de s'y retrouver. Je vous propose d'ailleurs de réécouter un autre extrait dans lequel on va commencer une psychothérapie avec David Haller, qui commence une psychothérapie avec Mélanie, qui va lui expliquer que ben, maintenant il va aller beaucoup mieux.
David, your whole life people have told you you're sick. What if I told you that's a lie? What if I told you every memory you have of mental illness, the voices, hallucination, was just your power? And what if I could do more than just tell you? What if I could show you? Help you rewrite the story of your life?
Do we have time for that? Didn't you say Division 3?
We'll make time. You're very important to us, David. To me. I need you clear. I need you focused. This is how we do it. We look back. We find your powers. We see what triggers them. But what matters most, we make you whole.
Là, on vient d'entendre un moment assez calme, mais moi, je trouve que dans l'ensemble, la série est assez frénétique quand même.
Ah oui, c'est clair qu'on enchaîne les plans très très rapidement et des allers-retours et des plans oniriques, etc. Donc, c'est vrai qu'à suivre, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait plus trop à des moments où on est exactement. Est-ce qu'on est dans le présent? Est-ce qu'on est dans le passé? Est-ce qu'on est dans son esprit? Est-ce qu'on est dans un souvenir? Et des fois, il y a des souvenirs dans les souvenirs. En fait, on a l'impression de prendre de la drogue en regardant cette série. Le personnage, d'ailleurs, est un ancien drogué aussi. Et on a l'impression d'être drogué aussi quand on regarde la série.
Mais donc, est-ce qu'on regarde une histoire d'un gars qui s'imagine toutes ces histoires-là parce qu'il est drogué, ou est-ce que c'est la réalité?
C'est toute la question
c'est
de la série.
La question. Et ce que je me disais aussi en t'écoutant, c'est que l'ambiance a l'air quand même assez plombante dans cette série hôpital psychiatrique et compagnie. Quand on regarde des séries de super-héros, en général, on se dit... je vais regarder un truc fun qui bouge dans tous les sens.
Alors, ça reste fun malgré tout, parce qu'il y a beaucoup de trouvailles visuelles et sonores qui sont très chouettes. La série ne s'interdit aucun délire. On peut voir par exemple les personnages danser sur une chanson de Gainsbourg à un moment, ou se faire un petit Bollywood aussi. Et le créateur de la série s'amuse beaucoup à perdre le téléspectateur en jouant la carte de la folie à 100%, hein, parce que On se dit, ok, c'est fort probable que le personnage principal soit un mutant hyper puissant, qu'il arrive pas à gérer cette puissance parce que, ben, on lui a dit qu'il était malade et que quelque part ça l'a fragilisé. Ça a fini par le rendre réellement fou, donc il est pas facilement gérable. Alors, on n'est pas toujours certain de savoir si ce qu'il vit est réel ou pas réel. Et épisode après épisode, on va s'enfoncer loin dans sa psyché. Parce que, évidemment, s'il veut exploiter à fond ses pouvoirs, ben, il va falloir s'allonger sur le divan et c'est assez sympa parce que ça donne droit à des scènes vraiment très chouettes. Dans lesquelles on rentre dans la psyché et les personnages en fait qui lui font sa psychothérapie rentrent dans ses souvenirs aussi. On assiste à ses souvenirs, on rembobine la scène, on la regarde sous un autre angle, on en discute. Tiens, pourquoi est-ce que tu es arrivé à cet état de crise ? Parce qu'en fait, on essaie de voir quelles sont les circonstances qui ont provoqué la crise et donc quel est un peu le bouton qui a provoqué tes pouvoirs. D'ailleurs, les pouvoirs de David ne sont jamais très clairs parce que il est à la fois il entend des voix, mais il peut aussi bouger des objets par la pensée, il peut se téléporter, l'étendue de ses pouvoirs semble infinie. Quand on voit ces scènes où ils assistent aux souvenirs, au bout d'un moment, on est vite perdu, en fait. Même ce qu'on entend, les dialogues, des fois, prennent un autre sens à partir du moment où on le revoit avec une autre explication. On se rend compte qu'en fait, non, ça c'était un enregistrement. Enfin, c'est, voilà, on est dans presque dans du David Lynch par moment.
Oui, c'est à ça que ça me faisait penser, oui.
Vraiment. Même dans la mise en scène, d'ailleurs, il y a vraiment ils osent beaucoup de choses au niveau de la mise en scène, avec des passages qui sont mis en rewind. Et en plus, pour couronner le tout, David est victime régulièrement d'hallucinations qui font intervenir une sorte de grand méchant, quasi muet, grotesque, un gros avec un goitre qui apparaît comme ça et que certains personnages voient, d'autres ne voient pas, dont il essaye de fuir, qui serait un peu la représentation de ses pouvoirs. Ou en tout cas l'explication de ses pouvoirs. C'est compliqué, voilà. Donc on l'aura compris, si vous cherchez des super-héros un peu bas de plafond et des scènes de combat chorégraphiées comme dans Matrix, passez votre chemin. C'est pas du tout. Allez voir plutôt du côté de Iron Fist, Jessica Jones ou les Defenders, vous aurez de quoi vous régaler. Par contre, si vous êtes intéressé par des séries plutôt denses, dont la mise en scène très couillue permet de compenser le fait que c'est un projet quand même fauché, hein, c'est pas une série qui a des grands moyens, vous avez frappé à la bonne porte. Moi, c'est une série qui m'a beaucoup rappelé cet épisode final de la saison 4 de Buffy, dans lequel on plonge dans les cauchemars de chaque personnage. C'est vraiment ça, mais pendant toute une saison. Ça ne dure que 8 épisodes, je vous rassure, mais il faut pouvoir s'accrocher, effectivement.
Quand tu expliques la série avec le fait que le réalisateur ne s'interdit rien, ça me fait penser aussi aux épisodes un peu particuliers qu'il y avait dans Buffy, où il chantait dans tout un épisode, voilà, ce genre de choses.
Mais là, c'était un épisode à la fois. Ouais. Ici, c'est dans un épisode, on passe dans plusieurs interprétations. Effectivement, comme tu disais, ils se mettent à danser, puis on est dans des cauchemars, on est dans des visions. Un épisode est tellement riche visuellement.
Et en même temps, ça semble très construit. C'est ça qui est chouette aussi. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas toujours, mais on sent que le créateur sait où il veut aller. On n'est pas sur du J. Abrams, hein.
Oui, mais de toute façon, c'est obligatoire, parce que si tu commences à mettre des boîtes dans des boîtes, et donc à faire des rêves dans des rêves, forcément, il faut que ce soit construit, sinon, tu parles n'importe quoi.
Va le dire à J. Abrams, j'ai envie de te dire. Ben, la grande imposture d'Hollywood, ce gars. Mais franchement, non. Mais là, ici, ils savent où ils veulent aller. Sauf que, ils s'amusent à nous perdre. Tout prend sens à un moment. Enfin, non. Pas à un moment. Pas tout à fait. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'interprétations qui sont possibles. Et c'est en ça que la série peut devenir culte, effectivement. C'est que elle laisse le droit à l'interprétation. Et donc, sur les forums, ça peut exploser, de se dire « Ah oui, mais attendez, on voit cet élément-là à tel endroit, donc ça veut dire ça. » C'est propice à la discussion, c'est propice à l'interprétation, et donc il y a de quoi en faire une série culte.
Et c'est basé sur un comics. Tu sais si, justement, le comics est aussi complexe dans sa construction, ou est-ce qu'on est dans un truc plus classique?
Alors, j'avoue que j'ai pas lu le comics, donc je pourrais pas te répondre réellement. Je sais que c'est un comics qui est un petit peu à part, parce que David Haller, en fait, est le fils du professeur Xavier. Bon, c'est pas un grand spoiler, parce que c'est annoncé souvent dans les résumés de la série. On voit un peu sa lignée, effectivement. Maintenant, c'est un comics qui est un petit peu à part et que j'avoue que j'ai pas lu. Donc, je pourrais pas répondre à cette question-là. Moi, j'ai vu ici que la série, et je veux vraiment saluer le travail impeccable de la mise en scène de la série, le choix des couleurs, le choix des musiques, la performance de Dan Stevens, absolument hystérique dans le rôle de David Haller. Il nous emmène vraiment en quelques instants dans la folie de son personnage avec une facilité déconcertante. Il est vraiment impeccable, je trouve.
Dan Stevens qui vient quand même de Downton Abbey, hein, qui était connu pour son rôle.
Dans Downton Abbey, effectivement, et qui la casse un peu le personnage un peu qu'il avait là-bas. Il est complètement crédible dans ce personnage. On l'aime voir perdre les pédales. C'est un personnage qui a tendance à être complètement hystérique aussi. Ben forcément, il est fou, mais il est réellement fou. Enfin, donc c'est pas juste ah bah tiens non, t'avais des pouvoirs, donc c'est pour ça et ok, j'arrive tout de suite à maîtriser mes pouvoirs. C'est toute la question justement, comment on arrive à maîtriser un gars qui est super puissant, mais qui a perdu la tête à un moment. Et c'est vraiment toute la question de la série. Donc on est vraiment dans une introspection totale, ce qui rend cette série vraiment beaucoup plus intéressante que la plupart des séries des super-héros actuellement. Si vous voulez chercher des trucs avec des chorégraphies, des scènes de combat, c'est pas ici que vous devez aller, quoi, clairement pas. Il y a une saison 2 qui est attendue dans le courant 2018, à condition aussi, parce qu'il y a un Français qui va jouer, enfin, qui devait jouer dans cette saison 2, Saïd Tagmaoui. Il s'est retiré, en fait, du tournage, donc peut-être que la diffusion de la série va peut-être être retardée à cause de son retrait. Donc, c'est une saison 2 qui s'annonce un petit peu chaotique dans son développement. Peut-être qu'il y a trop d'attentes maintenant autour de la série, je n'en sais rien. En tout cas, moi je suis très impatient de voir ce qui va se passer.
Et c'est là-dessus qu'on va refermer ce podcast. Merci à vous d'avoir été des nôtres et on se retrouve très prochainement sur afds.tv.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.